Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour Henri Guénaud, bienvenue et bonjour à tous.
Et oui, c'est Mediapolis, samedi, 10h en direct. Et vous êtes plus nombreux à nous écouter que la saison dernière, ou plus exactement la vague dernière, comme on dit. Cette émission est réalisée, et on vous en remercie, cette émission est réalisée par Jérémy Hébert et préparée par Capucine Patouillet. Et notre invité est un esprit toujours libre, parfois chagrin. Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, qui vient de publier De Gaulle, Le nom de tout ce qui nous manque, aux éditions du Rocher. Il y a pas mal de morceaux de bravoure dans ce livre. Je vais vous en lire un petit qui résume les portraits qu'il fait des différents présidents de la Ve République ayant succédé au général de Gaulle à la fin de ce chapitre. Avec l'intertitre des habits trop grands, les successeurs du général de Gaulle à la tête de l'État ont tous dû, d'une façon ou d'une autre, sur le fond ou sur la forme, composer avec lui. Et un peu plus loin, ça défile. Pompidou fut celui qui parvint le mieux, sans se contorsionner et en restant lui-même. Giscard voulut les faire retailler à sa mesure, les habits de la fonction. Hein. Giscard voulut les faire retailler à sa mesure sans parvenir à trouver les bonnes. Mitterrand surprit tout le monde par la facilité avec laquelle il s'en empara en criant « C'est à moi !» S'il l'avait pu, il aurait, comme les anciens pharaons, effacé le nom du général sur les statues de ce dernier et remplacé sa tête par la sienne. Mais il ne le pouvait pas. Chirac réussit à les mettre deux ou trois fois. Sarkozy les enfila dans toutes les crises qu'il eut à affronter, mais ne pouvait pas les supporter dans la vie de tous les jours. Hollande ne sut jamais que ses vêtements existaient. Pour lui, président ou premier secrétaire du Parti Socialiste, c'était la même chose, pas la peine de changer de costume. Macron aurait bien voulu les porter, mais ils étaient décidément trop grands. Comme vous voyez, tout le monde en prend pour son grade. Ça a dû vous plaire, ça, Catherine.
Ben, je trouvais que c'était bien, et il y avait des choses qui étaient bien vues, c'est vrai.
Oui. Alors, bon, celui qui est finalement le seul qui s'en sort vraiment, c'est Pompidou. Oui. Celui qui est un petit peu épargné, un petit peu épinglé, c'est Sarkozy.
Oui.
C'est normal qu'il soit un petit peu épargné puisque vous avez été son conseiller, et un petit peu épinglé parce qu'il n'a pas été aussi gaulliste que vous l'auriez voulu.
Non, mais il n'a pas cherché à l'être. Il avait un tempérament assez gaulo-bonapartiste, parce que j'appelle gaulo-bonapartiste dans le texte. En même temps, ce tempérament l'empêchait aussi d'être tout le temps gaulien. Enfin, De Gaulle est quelqu'un qui ne montrait pas ses sentiments, comme tout souverain qui se respecte. Il ne montre pas ses sentiments, il ne montre pas ses colères, ses joies, etc. Il prend en charge ceux de ses concitoyens. Nicolas Sarkozy, lui, ne pouvait pas dissimuler ses sentiments, et donc il les montrait, et ça, c'est vrai que ça crée une distorsion par rapport au souverain, au monarque républicain que la Ve République consacre. Les gens veulent pas prendre en charge ni les joies, ni les colères, ni les peines de celui qui les gouverne. Ils veulent que celui-ci prenne les leurs en charge.
Voilà. Et ça lui ennuie de pas être un cachotier sur ses sentiments personnels.
C'est sa philosophie. Il disait, c'est inhumain. Voilà, je comprends très bien. On pourrait dire d'ailleurs, je crois que je l'ai écrit, humain, trop humain, d'une certaine
cette
façon.
Cette idée, elle court dans le livre et c'est assez intéressant. À plusieurs moments, le je, oui, le moi, non. Écrivez-vous quelque part. Oui. C'est assez juste sur la subtilité de la fonction présidentielle. Bon, alors, malheureusement, on est obligé dans cette émission de parler un peu de l'actualité.
C'est le but du livre, d'ailleurs, c'est d'amener à l'actualité.
Malheureusement. Le but de l'émission, ce serait à partir de l'actualité. Si de temps en temps, vous voulez nous ramener sur les hauteurs, n'hésitez pas. J'ai noté dans un discours de De Gaulle au Club français d'Oxford, le 25 novembre 1941, le poète met en scène le campagnard montant la pente abrupte. Ça va vous plaire, ça, Yellow. Homme de la plaine, pourquoi gravis-tu la colline ? C'est pour mieux regarder la plaine. Je n'ai compris la plaine qu'en la voyant du haut du sommet.
Oui, je connais cette
passage. Elle vous plaît, hein ?
Oui, qui est magnifique, en fait.
Oui, d'accord.
Mais oui.
Bon, allez, on redescend de la montagne, on va sur plaine.
Peut-être parce qu'on est trop redescendu qu'on en est arrivé là où nous en sommes.
Oui, mais néanmoins, on est un petit peu obligé de descendre, mais on va rencontrer quelqu'un qui, après tout, peut-être pourrait lui aussi, le jour venu, monter sur la montagne, Bruno Le Maire.
Le Black Friday, cette grosse opération de promotion commerciale devrait être décalée d'une semaine, le temps pour les petits commerces de pouvoir rouvrir. Bruno Le Maire, vous avez bataillé toute la semaine pour obtenir ce report.
Oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Le Black Friday ne pouvait avoir lieu tant que les petits commerçants étaient fermés, car ce n'aurait pas été juste. Hein. Vous imaginez le petit commerçant impuissant face à la grande distribution? Ce petit commerçant français, disons-le à vos auditeurs, est en voie de disparition. Ce petit commerçant, oui, il faut dire la vérité, il a perdu ses clients, son magasin est vide, son salaire a maigri, sa femme a grossi. Amazon, Carrefour, Auchan s'apprêtent à le dévorer. Mais heureusement, au loin, une lumière... Au loin, un espoir surgit.
Le vaccin ?
Mais non, nounouille, putain, moi ! L'espoir, c'est moi, Bruno Le Maire. Vous, j'ai réussi à obtenir un report du Black Friday de la part de Leclerc, de Carrefour, d'Amazon, d'Auchan.
C'est vrai, apparemment, ce serait pour le 4 décembre, du coup. Est-ce que ça sera suffisant pour sauver Noël, monsieur le maire ?
Est-ce que ça sera suffisant pour sauver Noël ? Nous l'espérons, cher Julie Leclerc. Nous l'espérons, en tout cas, dans le pire des cas, j'ai une piste de travail. Parce que si j'ai pu décaler le Black Friday, je peux aussi décaler Noël.
Alors c'était hier matin, ça fait beaucoup rire, Henri Guélo. C'était hier matin, donc en fait, vous avez compris, c'était Nicolas Canteloup parlant du Black Friday et d'Amazon. C'est vrai que ça, c'est la dernière petite musique politique de la semaine, Catherine Ney, c'est que le maire a réussi un très joli coup en obtenant, de, notamment d'Amazon, le décalage de Black Friday.
Ah oui, c'est un succès qu'on n'imaginait pas, surtout de la part d'Amazon, d'Amazon. Mais je veux dire, depuis la gestion de la crise du Covid, tous, ceux qui ne le critiquent pas, disent qu'il a plutôt bien géré en ouvrant les vannes, que, quoi qu'il en coûte, comme lui demandait le président, mais ce que font aussi tous les Européens dans leur pays. Et voilà, et ça, il l'a fait. Moi, je pense qu'il a pris une dimension. Puis surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que pour une fois, on ne change pas de ministre des Finances tous les deux ans, comme c'était l'habitude. Il y a eu 12 ministres des Finances en 10 ans entre Sarkozy et son prédécesseur. C'était insupportable.
Alors, c'était le premier bouquet de fleurs sans épines de Catherine Ney à destination de Bruno Le Maire. Est-ce que Henri Guénaud, lui aussi, partage ses fleurs ? Réponse dans 2 minutes.
Europe 1, Médiapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Henri Guénaud, auteur de De Gaulle, le mot de tout ce qui nous ment. Le nom, oui, c'est ça. Oui, j'ai le livre sous les yeux, mais j'ai essayé de le faire de mémoire, c'est raté. Enfin, le mot, le nom, c'est pas très loin, ouais. C'est la même idée.
Sur Bruno Le Maire, pour lui.
Oui, c'est ça. Alors, oui. On voulait vous demander si vous partagiez les bouquets de fleurs de Catherine Ney à Bruno Le Maire.
Alors, moi, je ne suis pas fleuriste. Et
moi non plus.
Je ne distribue pas de bouquets de fleurs, mais...
Dans votre livre, il y a beaucoup de fleurs pour Philippe Séguin.
Oui, mais ça, c'est normal, une vieille tendresse.
Enfin, oui, bon, d'accord.
Il y a des fleurs pour un certain nombre de gens. Ouais. Pas tellement de cactus, en fait.
Oh, oui. Là, comme il est. Moi, qu'est-ce que vous auriez voulu. Voilà. Alors, le maire.
D'abord, première question, c'est pourquoi cette histoire de Black Friday a pris une telle importance. À mon avis, il y a deux raisons qu'il ne faut pas oublier pour remonter un peu sur la montagne, 2 minutes. La première, c'est que le capitalisme, c'est les gros qui mangent les petits. Voilà. Amazon, c'est le symbole du capitalisme. En général, pour que le capitalisme garde sa force créatrice sans devenir sauvage et sans détruire tout sur son passage, il faut le canaliser. Et donc, il faut aider les petits à résister aux gros. Et là, on fait le contraire, c'est-à-dire on aide les petits à mourir. Alors, pour des raisons qu'on peut, trouver juste... Regardez,
ah oui, non, mais pas Black Friday en soi. Vous savez que Black Friday, c'est 6 milliards de plus de chiffre d'affaires, dont 5 dans les... C'est déjà ce qu'on appelle les petits commerces. Moi, j'en ai par-dessus la tête de l'expression petit commerce. 5 dans les commerces et 1 seulement dans le e-commerce.
On est d'accord, simplement. Là, on les ferme. Donc, c'était déjà compliqué en général. Ouais. Là, on les ferme. Ouais. Donc, ils peuvent pas... Et surtout dans la période qui précède Noël. Bon.
Vous les auriez pas fermés, donc.
Non, moi je les aurais pas fermés, mais en tout cas c'est cet télescopage entre un capitalisme totalement sauvage qui va tuer les petits et le fait qu'on aide des petits à mourir au lieu de les aider à vivre. La deuxième raison, c'est qu'on est en train de se reposer des questions sur la numérisation de la société. On a dit c'est miraculeux, fantastique, et qu'on se rend compte qu'on a besoin de trouver un équilibre entre le numérique et le physique, entre l'inhumain et l'humain. Voilà. Ouais. Donc il y a une espèce de là, ça y est, le ras-le-bol est arrivé, le ras-le-bol de la visioconférence, le ras-le-bol du numérique. Voilà. Il y a une menace de déshumanisation qu'on sent de plus en plus peser, et ça s'inscrit dans ce contexte-là. Troisièmement, Bruno Le Maire et Amazon. Alors vous dites, Catherine, Amazon a fini par lâcher. Amazon a fait un très bon coup de communication. Hein. Il a lâché une semaine, il se donne le beau rôle, bon, mais au fond, il perd pas grand-chose. Quant à Bruno Le Maire, il fait de la politique. Sérieusement, alors on peut appeler ça de la politique politicienne si on veut, mais enfin, il fait de la politique, il dit voilà, au sein du gouvernement, il n'a pas les leviers pour obliger Amazon, mais il s'est servi d'Amazon pour essayer d'imposer son point de vue au sein du gouvernement et se donner le bon rôle auprès des commerçants, ce qui était assez habile. Et ce qui fait d'ailleurs très, très intéressant, parce qu'en reculant d'une semaine, il oblige le gouvernement ensuite à ouvrir, parce qu'on ne peut plus ne pas ouvrir au début décembre.
Et alors, je ne sais pas si vous partagez l'une et l'autre cette analyse, mais ça marginalise encore un peu plus Castex. Jean Castex est dans une position finalement quand même extraordinairement cornérisée, parce que si on regarde le président de la République, Jean Castex, et par exemple le maire Darmanin, Macron, le maire Darmanin, il regarde 2022. Macron pour être réélu et les deux autres pour essayer d'avoir Matignon. Castex, il sait qu'il est presque certain que son mandat, entre guillemets, s'arrête en 2022. Qu'il est quasiment exclu, qu'il soit renommé si jamais Macron était réélu. Et ça fait une différence quand même absolument terrifiante, parce que du coup, ça émancipe le maire et Darmanin du Premier ministre. D'une certaine manière, le Premier ministre, il s'en fiche un peu. Ce qui compte pour eux, c'est de plaire à Macron.
Oui, je pense que, enfin, s'agissant de Bruno Le Maire, qu'il vise même bien au-delà de 2022.
Je parlais de la première échéance.
Oui, mais ça veut dire qu'il cherche pas non plus à plaire à Macron en priorité. Il cherche à plaire aux gens.
À exister par lui-même, à se faire une statue.
Exister par lui-même. Au fond, il est jeune, il a du temps devant lui, et il a, contrairement à Darmanin, plus d'expérience politique. Donc, il profite de cette expérience. Et si ça doit rapporter en 2022, ça rapportera en 2022. Et sinon, il pense que ça rapportera plus tard. Voilà, en tout cas, à mon sens, c'est son calcul.
Avec cette chose un peu mystérieuse que vous allez nous expliquer, puisque vous connaissez ça très bien, sûrement, c'est comment est-ce qu'il a fait un score aussi lamentable à la primaire, un type qui a un certain talent politique?
Mais parce que d'abord la primaire, c'est, pardonnerez, je sais votre admiration.
C'est pas parce que je mets le bon primaire que tout de suite vous allez sauter.
Non, mais parce que c'est un piège à con, si vous permettez.
Bon, il y a des gagnants dans le piège à con, donc.
Voilà, et donc il faut voir d'ailleurs le résultat. C'est bien le piège à con.
Le résultat, c'est à cause de Fillon, c'est pas à cause de la primaire, mais bon.
C'est des deux côtés, c'est totalement contre l'esprit des institutions.
Il pose une question précise sur le maire, il part à taper sur les primaires, c'est plus fort que lui.
Et pourquoi Sarkozy est arrivé en troisième position?
Il a fait 2% ou un truc comme ça.
Oui, mais c'était parce que ça s'est joué entre les trois autres. Oui. Voilà, c'est tout.
Il était un peu hors jeu à l'époque.
Je pense qu'il a pris, il a pas fait autant de politique qu'il en fait aujourd'hui, parce qu'il n'avait pas les leviers. Il est arrivé avec un programme de 1000 mesures, et puis il a dit moi je suis le plus sérieux. Mais personne n'attend un programme de 1000 mesures, même si tout le monde le réclame. Il n'a pas fait il n'a pas vraiment fait de la politique, et il apprend aussi à en faire et à utiliser les leviers du pouvoir pour en faire.
Allez, c'est bon pour le maire pour ce matin. On va en revenir à la gestion du confinement dans deux minutes.
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avec Henri Guénaud. Et alors écoutez, là, vous allez entendre un homme politique, un dirigeant important, un Premier ministre qui avoue une erreur. Enfin, peut-être un peu une erreur. Écoutez.
Peut-être effectivement que nous avons déconfiné un peu trop. Peut-être aussi que le peuple français, comme les autres, a cru que cette épidémie était derrière nous et que ce qui reste quand même comme le premier rempart pour lutter contre elle, le respect des gestes barrières, le port du masque, la distanciation sociale, le lavage des mains, enfin tout ce que vous connaissez par cœur, comment dire, n'a peut-être pas été respecté avec suffisamment de zèle. Le but, c'est pas de savoir si on a surestimé, sous-estimé. Le tout, c'est quand un événement arrive, c'est de faire face avec les décisions les plus adaptées.
C'était Jean Castex lors de son audition devant la commission d'enquête sur la crise sanitaire à l'Assemblée nationale mardi. Alors, il y a deux lignes, Henri Guénaud, dans les règles de la com qui s'opposent. Il y en a une qui dit, surtout par les temps qui courent d'ailleurs, mais enfin bon, en soi même, quand on commet une erreur, il faut le reconnaître. Et puis il y a une autre, celle de François Mitterrand, par exemple, qui est n'avoue jamais. Vous, vous êtes sur quelle ligne, d'une part, et d'autre part, par parenthèse, à ma connaissance, j'ai pas entendu De Gaulle une seule fois faire une esquisse d'autocritique.
Non, mais il a tiré les conséquences de ses erreurs. Par exemple, en 63, il réquisitionne les mineurs, et puis il voit que ça marche pas, il arrête. En 68, il laisse Pompidou ne pas évacuer la Sorbonne, et ça, on s'en sort avec les accords de Grenelle. Hein. On s'en sort pas par la confrontation, parce que à moins, il faut en sortir. Quand le plan calcul s'est révélé une erreur, il a abandonné le plan calcul.
Il faut reconnaître ou pas.
Mais après, ça dépend des situations dans lesquelles on se trouve. Dans des situations comme celle d'aujourd'hui, de crise durable, si on reconnaît pas ses erreurs, on change jamais. Et les gens ne vous croient plus. Voilà. Je pense que c'est une profonde erreur de ne pas reconnaître, même une faute de ne pas reconnaître ses erreurs. Et Dieu sait s'il y a eu des erreurs dans cette affaire.
Je pense que c'était possible il y a 20 ans, mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça se voit trop. C'est trop clair.
Mais il y a 20 ans.
Mais surtout qu'il n'y a pas de vérité quand on entend les spécialistes, tous les experts médicaux qui disent des choses différentes, qui disent une chose et son contraire. Que les politiques agissent et à contre-temps et reconnaissent leurs erreurs, c'est pardonné par l'opinion parce qu'elle voit bien que c'est une crise qui est un prototype en France.
Mais l'opinion a besoin de savoir qu'on ne se moque pas d'elle. Voilà. Or, il y a le sentiment, là, après toute cette succession d'erreurs, de défaillances, etc., qu'on raconte n'importe quoi. Je reviens sur ce qui vient d'être dit par Jean Castex.
Gaulliste social, vous devriez l'aimer.
Ça, moi, je vais pas
arrêter de le provoquer.
Chacun peut se dire gaulliste social, gaulliste ceci ou cela. C'est le problème de chacun. Les Français jugeront si c'est crédible ou pas. Ce que je viens d'entendre, en revanche, ça, c'est ni gaulliste ni gaullien. Pardonnez-moi. C'est intolérable pour moi d'entendre dire. Oui, alors on a peut-être déconfiné trop vite, alors les gens n'ont pas respecté... vous savez, c'est le vieux discours des heures sombres, le relâchement des Français. Hein. Nos relâchements sont la cause de notre défaite. Cherchez dans l'histoire, vous allez trouver des échos pas très sympathiques à cette position.
Henri Guénaud,
attendez, on dit les Français se sont relâchés pendant l'été, mais moi je me suis... Regardez le cas italien. L'Italie, on a dit, le déconfinement le plus strict, le plus sévère qui soit. Les gens ont passé tout leur temps sur les plateaux à expliquer qu'en Italie, on respectait toutes les mesures, on se relâchait pas. Ils ont repris des mesures restrictives bien avant nous. Ils ont fait la rentrée des classes 15 jours après nous. Ils sont exactement au même point que nous, sinon davantage. Ça n'a rien à voir. Il faut arrêter avec le discours du relâchement des Français.
Oui, voilà. Sauf que moi, j'ai une thèse différente. C'est que... le pouvoir politique a pris des mesures excessives en pensant que cet excès était nécessaire pour que les Français comprennent la gravité de la situation.
Non, on ne peut pas.
Vous me laissez poser mon tour.
Oui, allez-y.
C'est pas si long que ça.
Ouais. Posez
et
votre
les
question.
Français. Non, je pose pas ma question. Je me permets d'exposer pour une fois une analyse, si vous m'autorisez, Catherine. Je recommence. Putain, ils me coupent tous les deux, je peux rien dire ici. Je recommence.
Oui, c'est ça.
Le pouvoir politique prend des mesures excessives. genre les masques à l'extérieur, même s'il n'y a personne, genre 1 km/h, etc. Oui, il prend des mesures excessives parce qu'il croit que c'est nécessaire pour faire comprendre aux Français. Les Français, pas cons, comprennent que c'est excessif. Et qu'est-ce qu'on voit dans le confinement actuel ? C'est qu'ils ne respectent pas les règles excessives. Donc, ils ne respectent pas 1 heure, ils ne respectent pas 1 km, mais ils respectent, en tout cas l'immense majorité d'entre eux, la distanciation physique. On ne fait pas la fête à 15 comme des fous collés les uns contre les autres. Autrement dit, le pouvoir en a fait trop. Et bien, les Français, quand la règle est exagérée, ils la contournent.
Seulement,
vous êtes d'accord avec
ça? Je suis parfaitement d'accord avec cette idée. Mais je pense que c'est une politique délétère et dangereuse. C'est-à-dire qu'on on a fait la politique de la peur. Il faut, depuis le début, la politique de la peur est la pire des politiques. Voilà. Je vais être très méchant, mais je ne parle pas d'idéologie, je parle de ressort psychologique. Vous avez toujours face aux crises deux attitudes possibles. L'attitude gaullienne ou gaulliste et l'attitude pétainiste. Voilà, c'est pas compliqué. On fait la politique de la peur et après on dit je vais vous protéger. Bon, cette politique de la peur, on pourra en discuter deux heures de tous ces éléments. Elle pose un problème, c'est qu'un jour on va en perdre le contrôle de la peur. Donc aujourd'hui, vous avez une catégorie de la population qui a très peur et une autre catégorie de la population qui en a marre d'avoir peur, qui ne veut pas se laisser dominer par sa propre peur ni par celle des autres, et on va un, casser la société, deux, on est en train de ruiner l'autorité de l'État.
Voilà, n'ayez pas peur, après Jean-Paul II, c'est le message d'Henri Guénaud. Allez, une petite pause, et on en vient à cette histoire de vaccin, mais pas trop longtemps.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Henri Guénaud, qu'est-ce qu'il pense sur le caractère obligatoire ou non du vaccin ? Alors on pourrait dire, normalement, parce que c'est pas évident la réponse, ben Henri Guénaud, jacobin, tenant de l'État, mais de la règle, dit c'est mieux qu'il soit obligatoire. Ou alors, arrêter de rendre obligatoire des choses qui font que du coup on les respecte pas. Ou alors, François Bayrou dit ça, je vais dire le contraire. Non, c'est pas comme ça qu'il résonne, mais écoutons Bayrou.
Le mouvement anti-vaccin, le mouvement anti-médecine, c'est quelque chose qui va directement à l'encontre de ce que je crois des nécessités de la vie, des nécessités d'une famille.
Vous seriez favorable, par exemple, pour une vaccination obligatoire pour le vaccin anti-Covid ?
Après qu'on se sera assuré que le vaccin marche et qu'il est complètement supporté.
Oui.
Sur le principe, oui, bien sûr. Mais heureusement qu'on a des vaccinations obligatoires. Et je ne connais aucun médecin autour de moi qui ne soit pas certain que c'est dans ce sens qu'il faut aller.
C'était François Bayrou, invité de Jules Lambugier sur Europe 1 mercredi. Ça, des médecins qui pensent qu'il ne faut pas que le vaccin soit obligatoire, j'en présente autant qu'il veut.
Autant.
Il n'en fréquente pas beaucoup, M. Bayrou.
Non, il n'en fréquente pas beaucoup parce que la plupart des médecins disent exactement le contraire. Bon. Alors, pour faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment, moi, je voudrais appeler tous ces gens qui sont au pouvoir, au gouvernement, ou qui, dans l'opposition d'ailleurs, à relire L'homme révolté de Camus. Vous savez, il dit...
À lire pour certains d'entre eux.
Oui, à lire ou à relire, mais c'est exactement le fond du gaullisme selon Malraux, la force du nom, un noën dans l'histoire. Camus dit, l'homme révolté est un homme qui dit non, et qu'est-ce qu'il y a dans ce nom ? Il dit dans ce nom, le nom que l'esclave un jour jette à la figure de son maître, ou que le soldat jette à la figure de son commandant. Hein. C'est arrivé en 17, on s'en souvient, on a failli perdre la guerre à cause de ça. Il dit, dans ce nom, vous avez abusé, vous avez franchi une limite. Et au-delà de cette limite, j'oppose mon droit au vôtre. Voilà. Et si on franchit cette limite, l'autorité s'effondre. Voilà. Et le risque, moi, oui, je suis plutôt jacobin, napoléonien, je suis pour l'État napoléonien, gaullien, tout ce que vous voudrez. Mais justement, on ne joue pas avec le feu, avec l'autorité de l'État. Parce que le jour où elle s'effondre, il n'y a plus rien. C'est le chaos. Et là, on joue avec le feu. Et dans l'histoire des vaccins, c'est typique. C'est-à-dire que, d'abord, il n'y a pas que les anti-vaccins, les anti-sciences qui sont en cause. Il y a tous les gens qui se disent « Oh là là, moi je ne veux pas servir de cobaye. Bon. » Et si on me force, c'est vraiment qu'il y a un problème.
Ouais,
on va encourager les gens à ne pas vouloir se faire vacciner, en tout cas pas tout de suite. Et s'il y a 50% de la population, ou 60% même dans certaines enquêtes, qui ne veut pas, l'État n'y peut rien.
Mais
vous le rendez obligatoire.
Mais pourquoi,
ruinez.
En France, c'est pire qu'ailleurs ? Vous avez une idée, Catherine, de pourquoi en France, le mouvement anti-vaccin est plus fort qu'ailleurs ?
Le mouvement anti-vaccin, peut-être, mais là, sur cette affaire-là, je ne suis pas sûr que ce sera très différent dans beaucoup de pays. Voilà, sur le fait qu'il faut attendre.
On verra. Hein, en tout cas, aujourd'hui, Disons qu'ils ne seront pas vaccinés, il y en a plus en France qu'ailleurs, aujourd'hui.
Je ne sais pas, quand on était jeune, dans mon enfance, nos parents nous faisaient vacciner contre un peu tout.
Oui, et moi aussi, oui.
Voilà, et, moi, bon, et puis il y a eu des campagnes, je me souviens, c'était quand Kouchner était ministre de la Santé, sur je ne sais plus quelle maladie,
oui,
où on disait,
oui,
voilà, l'hépatite, on disait que ça déclenchait le truc, il y a eu une grosse peur.
Il y a eu des échecs de vaccins.
Il y a eu des échecs de vaccins, donc c'est peut-être
aussi,
ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi
Henri, Henri Guénaud.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'affaire du sang contaminé
vous
et tout ça.
Est-ce que vous feriez, vous avez, oui, eu, oui, le, vous avez été atteint du Covid, qui, oui, vous a quand même secoué au mois de mars.
Oui.
Bon, est-ce que vous feriez vacciner, vous?
Oui, bien sûr, moi je me ferai vacciner. Alors c'est moins utile pour moi aujourd'hui, s'il y a, oui, des priorités à établir, oui, c'est pas ceux qui ont été malades, bon, oui, bon, qui sont quand même...
Et votre famille, dans votre famille,
oui, bien sûr, oui. Ah oui, moi je suis pas du tout anti-vaccin, mais simplement, je pense que rendre le vaccin obligatoire est irresponsable. Voilà, aujourd'hui, c'est irresponsable de la part ce serait irresponsable de la part des pouvoirs publics, et c'est irresponsable de la part de tous ceux qui, dans la sphère politique, aujourd'hui, défendent cette thèse pour se donner une espèce de beau rôle... Mais qui est extrêmement dangereux. Vous ne pouvez pas, c'est invasif le vaccin, vous pouvez empêcher les gens de sortir dans la rue, mais vous n'allez pas les forcer à se vacciner. Donc l'État n'arrivera pas à mettre en œuvre cette obligation. Il ne faut pas la prendre, il faut essayer de convaincre.
Mais il faut inciter quand même.
Oui, mais il faut convaincre.
Vous ne pensez pas que dans le rejet plus fort en France qu'ailleurs, il y a l'ombre d'un certain nombre de scandales sanitaires dans lesquels les Français ont eu le sentiment d'avoir été trompés par des laboratoires et par le pouvoir politique. Et je pense à l'affaire du sang contaminé, je, oui, pense au Mediator, et que du coup, il y a la défiance.
Oui, bien sûr, il y a de la défiance. Alors après, il y a des postures, enfin, qui sont des postures de toutes les crises. C'est vrai qu'il y a une crise de l'autorité de la science, comme il y a une crise de la politique, comme il y a une crise de la société, de la civilisation. Dans ces crises-là, quand les autorités naturelles perdent leur légitimité, parce que parfois elles ont trop joué avec, eh bien, on ouvre la voie au complotisme, on ouvre la voie à l'obscurantisme. Mais je pense que là, ça dépasse cette question-là. Et encore une fois, c'est ce que vous dites est vrai, hein, sur ruiner la confiance. Mais vous croyez que ce qui s'est passé, ce qu'on a vu sur tous les plateaux de télé là, pendant la crise, n'a pas ruiné la confiance dans la science médicale chez beaucoup de Français. Voilà.
Mais mais ça aurait pu être pire. Allez.
Oui, ça aurait pu être pire. Pas la politique du pire.
Non, mais quand je dis ça aurait pu être pire, ce que je veux dire, c'est que les contradictions, elles se sont accumulées et que le recul de la confiance envers les scientifiques, il existe, mais relativement faible. C'est tout. Je m'attendais à ce qu'il soit plus grand.
Moi, je crois qu'il grandit, mais il vient aussi du fait qu'on a utilisé la science, enfin, on a politisé la science. Mais, on a utilisé la science pour se cacher, enfin, on s'est caché derrière la science, et ça, c'est pas bien du tout. Voilà.
Allez, on va changer de sujet, j'ai été gentil, je vous ai pas demandé ce que De Gaulle aurait fait face à...
Non, mais je vous aurais pas répondu, parce que je réponds jamais à une question
comme
pareille.
Je sais que vous auriez pas répondu, je vous ai pas posé la question. Vous voyez, donc tout va bien, on raconte même les questions qu'on pose pas, parce qu'il n'y aurait pas eu de réponse. Et on passe à un autre sujet chaud de la semaine, qui est celui de la liberté de la presse et la protection de la police. Allez, dans 2 minutes après la dernière pause.
Europe 1, Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Notre invité, Henri Guénaud, gaulliste gaulien hier, aujourd'hui et demain, auteur de Gaulle, le nom de NOM, de tout ce qui nous manque. C'est aussi le nom qu'il sut dire lorsqu'il le fallut. Nous avons eu cette semaine un débat qui s'est terminé, pas vraiment d'ailleurs, mais enfin qui s'est ponctué hier par le vote à l'Assemblée nationale de l'article 24 de la proposition de loi dite sécurité globale.
Oui.
Je dis proposition de loi parce que c'est pas tout à fait négligeable, parce qu'une proposition de loi ne passe pas par le filtre de l'avis du Conseil d'État. Tandis que quand c'est un projet de loi, il y a obligation de passer par le Conseil d'État, et donc s'il y a un problème juridique, on peut...
Ça n'est qu'un avis, malgré tout.
Oui, oui, ça n'est qu'un avis, mais il est en général assez largement tenu compte.
Oui,
oui. Mais ça ne vous dérange pas, ça, si ?
Ah, pas du tout, non. Mais c'est pas vraiment un filtre. Hein. Le Conseil d'État agit là en tant que conseil.
C'est un filtre facultatif.
J'en profite un instant, ouais, parce que ça m'a mis en transe. La dernière décision du Conseil d'État obligeant le gouvernement à venir s'expliquer sur les mesures climatiques, c'est vraiment le dérapage complet du gouvernement des juges qui mine l'autorité de l'État. Et quand l'autorité de l'État sera détruite à la fois par ceux qui le dirigent, par ceux qui le contrôlent, et par ceux qui le conseillent, eh bien, on va se retrouver dans une situation vraiment dramatique.
Ouais. pas entamer un débat là-dessus, mais on est quand même bien content que quand on a des régimes d'exception, comme le régime d'état d'urgence sanitaire, on puisse contester des décisions regardez, du préfet ou de ministre devant le Conseil d'État, et que dans certains cas, ils les annulent.
Je suis d'accord, mais là, c'est extraordinaire parce que toutes les libertés ont été piétinées, à tort ou à raison, mais toutes, comme on n'a jamais vu, enfin, on l'a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, et elles sont où les institutions qui protègent les libertés, qui disent simplement voilà la limite. Elles sont
toutes les libertés piétinées comme vous y allez. On n'est pas en dictature absolue. Ah ben, toutes les libertés, pas toutes, n'ont pas été piétinées,
La vie familiale, le droit à une vie familiale, le droit de circuler librement, de sortir de chez soi, le droit de manger ce qu'on veut, d'acheter ce qu'on veut.
Liberté d'opinion, elle a été altérée.
Bah, la liberté de culte, etc. Enfin,
la liberté d'opinion n'a pas été altérée.
Elle n'a pas été altérée. On n'a pas pris encore une mesure pour l'interdire, mais alors on a d'autres façons.
Toutes les libertés n'ont pas été piétinées. Comme vous
non, mais vous employeriez le mot dictature.
Une dictature sanitaire. Alors les dictatures sanitaires, elles sont plus vicieuses, mais elles sont plus vicieuses.
Faut pas abuser de ces mots, Henri Guénaud. Vous avez jamais vécu en dictature.
Vous avez vu dans l'histoire. D'abord, je me signe des autorisations à sortir de chez moi. Et sinon, j'ai 135 euros d'amende.
Ouais, mais comme c'est vous qui signez, c'est pas la même chose.
Mais c'est absurde, c'est dégradant.
Oui, mais c'est absurde, mais c'est pas la même chose que quand c'est un flic qui signe.
Ah non, et les policiers qui sont venus dans le sac des gens vérifier s'ils avaient, pendant le premier confinement, s'ils achetaient des biens essentiels ou pas, mais sans aucune base légale d'ailleurs. Enfin, c'est hallucinant.
C'est hallucinant, c'est absurde, c'est bureaucratique, c'est ridicule,
non, c'est bien pire que ça.
C'est pas une dictature, je m'adresse. Si. Et ben voilà, le débat est ouvert, les auditeurs trancheront. Et sur l'article 24, alors, sur le fait que...
Alors, ça se situe dans un contexte où les libertés sont bafouées, donc il y a un problème, c'est un problème beaucoup plus vif que d'habitude. D'autre part, c'est un problème compliqué, c'est-à-dire que il n'est pas question de plus longtemps de laisser sans protection les policiers et les gendarmes. Voilà. Donc, et ça, c'est le problème de la mise en public, du dévoilement en public, des noms, des visages, des adresses, que ce soit des policiers, des gendarmes ou des professeurs qui soi-disant
font leur travail. Voilà. Oui.
tout ça pose un problème qui n'existait pas de cette forme avant.
Ne vise pas les professeurs, malheureusement.
Non, je suis d'accord,
mais
je
veux dire que
on est dans ce contexte. Bon, et les forces de l'ordre, elles sont particulièrement visées. Bon, donc il faut quand même les protéger. Alors, je ne pense pas que la meilleure protection, ça soit de demander aux journalistes d'avoir une accréditation pour suivre, ni même de filmer. En revanche, mettre en enfin, lancer dans le public des noms, des visages, des adresses, ça, je pense que ça doit être puni, même si c'est pas accompagné d'une menace physique ou d'une menace de meurtre. Je trouve normal qu'on filme, je trouve normal que quand on repère une faute, on envoie au procureur ou à la préfecture de police des remarques, que les journaux dénoncent ce qu'ils ont vu, mais moi, j'ai pas encore fait ma religion sur le floutage des obligatoires des visages des policiers.
Mais il n'y a pas de floutage dans
Mais justement, moi,
ça avait été envisagé par Gérald Darmanin qui ne l'a pas retenu.
Je me suis pas fait une opinion là-dessus, il l'a pas retenu. Bon, et peut-être que c'était une solution. En tout cas, ça mérite un débat un petit peu dépassionné. Mais là encore, le pouvoir doit se dire que même pour protéger les policiers, il y a des limites à ne pas franchir. La question de la limite, au-delà de la limite,
le ticket n'est plus valable.
Mais ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à la presse ou ça s'adresse aux internautes qui filment et qui envoient sur les réseaux sociaux, après on cherche les noms et tout ça ?
Si la presse publie la photo, elle va sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est la question... Moi, je pense que la question du floutage est plus importante. En tout cas, c'est une méthode moins réductrice des libertés, de la liberté de la presse, de la liberté de manifester, et de la liberté d'expression, que celle qui consiste soit à interdire de filmer, ce qui me paraît fou, soit à demander une accréditation pour aller suivre une manifestation.
Donc vous regrettez que ça ne soit pas retenu dans la loi ? Le floutage n'est pas retenu.
À la place des dispositions qui ont été retenues.
Oui. D'accord. Enfin, voilà, je suis d'accord avec vous, là.
Mais... Ah bah, c'est bien, vous êtes d'accord tous les deux. Et pendant ce temps-là, je vous propose qu'on aille faire un petit tour en se détendant un instant avant de devenir sérieux aux États-Unis. Mais je me suis trompé tout à l'heure. Il y a encore une pause, je suis désolé. On est obligé de gagner un peu notre vie. Hein.
Europe 1, Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et Henri Guénaud, bonapartiste et gaulliste, jacobin et gaulien, tout ça rime et c'est la fidélité. Alors pour continuer le traitement médiatique de l'élection présidentielle américaine,
Le New York Times s'est tourné jeudi non pas vers des politologues, mais vers des coiffeurs. Et c'est pour ça qu'on va se détendre un peu. Et oui, pour les adeptes du journal, vous aurez probablement vu passer l'article « Whatever it is, it's probably not hair dye ». Quoi que ce soit, ce n'est probablement pas de la teinture pour cheveux. Si vous n'avez pas la référence, ne vous inquiétez pas, c'est Alice Baudry, directrice marketing et communication de l'Institut Montaigne, qui nous explique. Le New York Times fait référence à la situation très embarrassante vécue par l'ancien maire de New York, actuel avocat de Trump, Rudy Giuliani. Jeudi, cet homme de 76 ans répondait à une conférence de presse à Washington. Et alors qu'il continuait de remettre en question les résultats de la présidentielle, il commence à s'énerver, à transpirer et à fondre. Il s'agite dans tous les sens. Et 40 minutes après le début de ses déclarations, sa sueur commence à couler sur son front d'une couleur très foncée. Au moment des questions-réponses avec les journalistes, les sombres ruisseaux de liquide sur son visage deviennent impossibles à ignorer. De nombreux commentateurs en ligne ont supposé que M. Giuliani était victime d'un mauvais travail de teinture qui coulait maintenant sous les lumières vives de la télévision. Mais plusieurs coiffeurs de Manhattan ont déclaré, grâce au New York Times, que ce qui dégoulinait sur le visage de l'avocat du président n'était probablement pas de la teinture. Alors on vous épargne le débat autour de l'utilisation potentielle du mascara ou autre traitement cosmétique américain. L'article du New York Times est là pour cela. Voilà, ça c'est pour vous montrer que de temps en temps, évidemment, la politique devient une distraction un peu frivole. Mais derrière ça, nous avons quand même la persistance aux États-Unis. Et ça, c'est autrement sérieux et grave. Et nous aimerions entendre Henri Guénaud là-dessus, de quelque chose qui nous semblait, mais juste encore il y a un mois, inconcevable. C'est-à-dire qu'un président des États-Unis sortant, donné par toutes les analyses battues à l'élection présidentielle, battue en termes de voix populaire de 4 ou 5 millions de voix, mais battue par les grands électeurs, puisque ce sont les grands électeurs qui décident, dans un premier temps, dire qu'il y a eu plein de fraudes, dans un deuxième temps, envoyer ses avocats partout où il peut dans les États limites pour faire constater les fraudes et annuler les résultats sans y parvenir une seule fois. Dans un troisième temps, c'est le temps actuel, essayer de convaincre des élus de l'État, d'invalider eux-mêmes le vote, les grands électeurs désignés et validés pour en mettre des copains de Trump à la place. On n'a juste jamais vu ça dans l'histoire américaine. Henri Guénaud, ça vous a surpris d'abord, et puis j'imagine que vous ne l'approuvez pas ce genre.
Alors, d'abord avec Donald Trump, rien ne surprend. Ce qui me frappe, c'est pas tellement que Trump soit Trump, hein, et qu'il fasse du Trumpisme.
Même à ce point-là.
Moi, ça m'a surpris. Mais c'est pas. Enfin, que lui le fasse, c'est une chose. Le problème, c'est que ça soit possible. C'est-à-dire que, au fond, on s'en émeut, mais c'est possible. C'est possible parce que Trump, il est assis sur un électorat qui, à ce stade du décompte, fait, je crois, plus de 73 millions de voix, et avec 10 à 11 millions de voix de plus que la dernière fois. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un phénomène, c'est pas quelqu'un d'isolé, c'est quelqu'un qui incarne un ressentiment, une colère, tout ce que vous voudrez.
Ouais, ils sont pas tous Trumpistes fanatiques. Hein. Non, il y a aussi même, des électeurs républicains traditionnels, il faut faire le tri.
Mais quand même, il a gagné. Ouais. Plus de 10 millions de voix. C'est-à-dire que, et donc, c'est un des signes, il ne s'est jamais manifesté de cette façon, mais de la crise terrible que traverse la société américaine et même plus généralement les sociétés occidentales.
Oui, tout ce qu'on pensait. Peut-être, Henri Guénaud, si vous permettez, pour aller dans votre sens, le fait que ça marche auprès d'un tiers des Américains, ça marche auprès d'une majorité républicains. Qui sont maintenant convaincus qu'il y a eu fraude, et un tiers des Américains, parce qu'on croit toujours, mais c'est pas raison. Moitié républicain, moitié démocrate, il y a trois tiers aux États-Unis, républicains, indépendants et démocrates.
Vous avez raison,
c'est-à-dire que des indépendants et des démocrates, et pas tous les républicains, mais une majorité d'entre eux.
Il faut s'interroger sur ce que ça signifie, pourquoi c'est ça qui est important, la question que vous venez de soulever, c'est plus encore que le caractère imprévisible,
ou trop prévisible, complètement
fou parfois de Trump. Oui. C'est aux États-Unis, dans la plus grande démocratie du monde.
Et alors, pour terminer l'émission, vous savez, il y a toujours une chanson, Henri Guénaud. Et là, j'ai décidé de vous faire plaisir.
Avec Gilbert Bécaud.
Et même, j'ai décidé de vous faire plaisir avant d'avoir lu votre livre, parce que vous mettez en exergue un passage de cette chanson de 65. Mais avec Capucine Patouillet, on a un tout petit peu perfectionné le système.
Oui.
Et on a fait un montage de 3 chansons en hommage au général de Gaulle. Écoutez.
De Gaulle, de l'eau. de Strasbourg et de Lille, au creux de l'ombre, au fond du chemin.
Papa est parti
de Gaulle,
disant qu'il a quitté la place
de France.
Et chacun dans tous les partis prétend qu'il était de sa race. Même ses anciens détracteurs s'abritent à l'ombre de son chêne. Et la droite et la gauche en chœur arborent la courroie de Lorraine. Il s'appelait de France, un chanteur l'avait dit. Avec 15 ans d'avance, ce sera la zizanie.
Que tu le regretteras.
Ton papa sera parti.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée. La voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées. La voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie sans sous, ouais. Le nom drôle de nom, écrit sur l'ouragan. Quatre murs de l'horizon, claquant comme un slogan. Ce nom qui te parlait de chez toi, de chez nous, ouais. Ce nom qui chante clair, je te parie sans sou, que tu le regretteras, tu le regretteras, tu le regretteras.
Et c'était donc un montage de notre réalisateur Jérémy Hébert. Avec, dans le sens inverse de la chronologie, c'était d'abord Mireille Mathieu, De Gaulle, 1989. Après Serge Lama, Il s'appelait de France, 1986. Et ensuite, Tu le regretteras, Beko, 1965. La première et la dernière, les paroles de Pierre Delanoë, qui a fait les paroles des deux, et de celle de Mathieu Mireille et de celle de Beko Gilbert. Merci beaucoup à Henri Guénaud d'avoir été notre invité. Vous êtes content quand vous avez mis ces chansons?
Ah, très content, très bien.
Et quelle diction ces chanteurs, vous avez remarqué, c'est extraordinaire.
Merci à Catherine Ney, merci à Jérémy Hébert donc, qui a réalisé cette émission, Capucine Patouillet, qui l'a préparé. Faites-le écouter en podcast sur Europe1.fr, en plus il n'y a pas la pub. Et là maintenant, vous allez retrouver l'ami Mariotte, salut.
Bonjour Laurent.
Bonjour Catherine et bonjour Olivier. Alors prenez votre panier ce matin les amis, on vous emmène à la pêche au moule de Bouchot dans la baie du Mont-Saint-Michel. Notre dossier du jour est consacré aux légumes. On peut en faire tout un plat, vous entendrez. Et puis notre invitée est la bonne vivante, Amélie Nothomb. Il y aura du champagne, mais pas que. Allez, à tout de suite.
À tout de suite Laurent.